Ce matin, j'aimerais vous parler d'amour. Et le passage qui servira de point de départ se trouve dans la parole de Dieu, épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3, à partir du verset 14. Paul aux Éphésiens, chapitre 3, verset 14. C'est une prière de l'apôtre Paul, inspirée par le Saint-Esprit. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Dieu veut qu'avec tous les saints, c'est-à-dire avec tous les chrétiens, on sonde, on connaisse les quatre dimensions de cet amour de Dieu. L'amour est le summum de la vie chrétienne. On ne peut pas aller plus haut. Et si on doit viser quelque chose dans la vie chrétienne, c'est d'aimer plus. Au temps de Jésus, il y avait la secte des pharisiens, il y avait aussi d'autres groupes, mais les pharisiens étaient des légalistes qui insistaient sur la loi. Tout passait par la loi, tout tournait autour de la loi. Et si vous respectiez la loi, vous étiez un bon juif. Et vous étiez un bon croyant et l'Éternel vous bénissait. Peu importe que vous aimiez les autres ou pas, vous pouviez être quelqu'un d'exécrable. D'ailleurs, ils étaient souvent exécrables parce qu'ils étaient des propres justes et ils jugeaient tout le monde. Et eux étaient les meilleurs. Ils avaient un orgueil démesuré qu'on voit souvent dans les évangiles. Mais parce qu'ils respectaient la loi, ils se pensaient meilleurs. Et la Bible et Jésus-Christ est venu apporter le vrai message de Dieu, qui est l'amour. Parce que quand on aime, on respecte la loi. Quand on aime de l'amour de Dieu. Jésus a résumé les 10 commandements en 2 commandements. Vous les connaissez maintenant, c'est quoi les 2 commandements qui résument toute la loi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà la loi. La loi, c'est « tu aimeras ». Alors pour nous, c'est un peu choquant parce qu'on a tendance à séparer la loi et l'amour. On dit « oui, il y a la loi, alors là, ça rigole pas. Et l'amour, alors on fait ce qu'on veut. L'amour, peu importe, vas-y. » Non, la loi et l'amour sont liés. Mais l'amour est au-dessus. Quand j'aime, je fais ce que la loi me demande. Et c'est important de comprendre cela parce que même dans les églises, il y a des pharisiens. Et nous avons tous cette tentation de devenir pharisiens, de manquer d'amour, de grâce, de pardon, de patience, d'humilité, sous prétexte que nous voulons suivre la loi de Dieu. Quand on suit la loi de Dieu, on aime. On aime encore plus. C'est l'apôtre Jean qui a écrit « Dieu est amour ». Il n'a pas dit « Dieu aime ». Il a dit « Dieu est amour ». Ça ne veut pas dire que tout ce qui est amour est Dieu. Hein. On n'est pas des panthéistes. Hein, mais Dieu est amour. Ça fait partie de ses principes, de son essence. Tout ce que Dieu fait est motivé par l'amour. Oui, mais quand il juge, quand il punit, il est motivé par l'amour quand il juge et quand il punit. Comme des parents. Des parents corrigent leurs enfants, doivent corriger leurs enfants par amour et avec amour. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Mais Dieu est toujours motivé dans tout ce qu'il fait, dans tous ses plans. S'il a créé la terre, c'est par amour. S'il nous a placés sur cette terre magnifique, c'est par amour. Si même on existe, c'est parce que Dieu nous aime. Si on est là, c'est parce que Dieu nous a aimés. Même si on n'est pas croyant, si on est là, c'est parce que Dieu nous aime. Celui qui n'aime pas, dit Jean, n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. Et Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, le fameux chapitre 13, qu'on appelle le chapitre de l'amour, il dit que d'une façon ultime, quand nous serons dans l'éternité et dans la gloire, qu'est-ce qui va supplanter toute chose ? C'est l'amour. Il dit, verset 12, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, nous voyons les choses spirituelles d'une façon obscure. » C'est-à-dire, nous ne comprenons pas tout. Nous n'avons pas toutes les réponses. Dieu n'est pas là en face de nous. On connaît beaucoup de choses par la parole de Dieu, mais on est loin d'avoir tout compris. Mais alors, le jour où nous entrerons dans la gloire, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. Aujourd'hui, dans ma vie terrestre, dans ma foi, c'est quoi les trois choses ? La foi, l'espérance, l'amour, ou la charité dans certaines versions, l'amour de Dieu, l'agapé. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Parce qu'au ciel, est-ce qu'il y a la foi au ciel ? Non, parce qu'on voit Dieu. La foi, c'est en attendant de voir. Est-ce qu'il y a l'espérance au ciel ? On n'attend plus puisqu'on a la chose. On est dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui reste ? L'amour. Et qu'est-ce qui va se passer quand on sera dans la Jérusalem céleste ? On va être baigné dans l'amour du Seigneur. Ça va être partout. Il n'y aura plus d'orgueil, plus de haine, plus de jalousie, plus d'hypocrisie, plus de violence, plus de cruauté, plus aucun mal sur toute la terre. Nous serons dans le royaume de Dieu et dans cet amour extraordinaire. Alors, nous devons commencer dès aujourd'hui, si nous avons le Saint-Esprit, à nous aimer les uns les autres. Jésus a dit cette parole très importante, Jean 13, 35. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que l'on saura que vous êtes mes disciples. Le plus grand témoignage qui existe, c'est l'amour entre frères et sœurs, entre chrétiens. Je suis frappé et je ne veux pas dévaloriser la prédication de la parole de Dieu, c'est très important, c'est même, la Bible dit qu'on est, la foi vient de ce qu'on entend, donc il faut prêcher. Mais très souvent, la première impression qu'ont les gens qui ne connaissent pas le Seigneur quand ils entrent, c'est quoi ? Est-ce que c'est le message ? Est-ce qu'ils sont là en disant « Ah oui, le pasteur, il a pris tel verset, tel passage, puis il a fait une exégèse ?» Non. Qu'est-ce qui frappe ? C'est l'amour. Ou le manque d'amour. Les deux, hein ? Si l'Église est froide, si on est froid, quand on rentre, c'est froid ici, on vous dit « Bonjour ». Ou des fois même, on ne dit même pas bonjour. Mais s'il y a cet élan d'amour, et pas juste hypocrite, vraiment sincère, qui vient de Dieu, il y a une chaleur, il y a quelque chose qui se passe. C'est l'amour de Dieu, c'est la présence de Dieu. Vous serez à ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Il est facile de dire que nous avons d'énormes progrès à faire, tous. Et on doit viser de grandir dans l'amour, de connaître cette largeur, cette profondeur, cette hauteur de l'amour de Christ, d'être rempli de Dieu et de son amour. Mais qu'est-ce que c'est l'amour divin ? L'amour de Dieu, c'est quoi ? On peut se méprendre aussi sur ce qu'est l'amour. On a cette idée que l'amour, c'est un sentiment, une émotion que l'on ressent. Ah, qu'est-ce que je l'aime ? Oui, ça marche avec votre fiancé, avec deux ou trois personnes, mais avec le reste du monde, ça ne marche pas. L'amour n'est pas une émotion. L'amour de Dieu, l'amour divin, c'est une action, c'est un engagement, c'est un don de soi. Le mot spécial que les chrétiens ont utilisé pour ça, c'est agapé, c'est un mot grec. Il y avait plusieurs mots. Il y avait un autre mot qui voulait dire l'amitié fraternelle. D'ailleurs, c'est traduit comme ça dans les Bibles second. Philéo, l'amitié fraternelle, l'amitié entre deux personnes, deux copains, deux amis ou deux chrétiens. Mais agapé, c'est au-dessus. C'est ce qu'on a traduit par la charité, c'est-à-dire le sacrifice, l'amour qui se donne. Un exemple se trouve dans la première épître de Jean, au chapitre 4. Jean, on l'appelle l'apôtre de l'amour parce que il en parle beaucoup. 1 Jean 4, versets 9 et 10. L'amour de Dieu, agapé, a été manifesté envers nous. En ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et son amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Le chapitre 3, verset 18, toujours dans la même épître. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Qu'est-ce qu'on remarque dans tout cela? Il est dit, l'amour de Dieu était là et il s'est manifesté. Comment? Est-ce que Dieu a envoyé des ondes? Bzz, bzz, bzz. Je vous aime. À quoi ça sert les ondes? À rien. Dieu est venu en personne à travers le Fils. Il est devenu un homme, il s'est incarné, il a vécu une vie difficile d'homme juif, galiléen, à Nazareth, et il est allé jusqu'à la mort de la croix. Ça, c'est l'amour, en action et avec vérité. Ce n'était pas juste des paroles. Là, c'est vraiment la chose qu'on a besoin d'apprendre, que l'amour, ce n'est pas un sentiment juste, une émotion, un ressenti, et ce n'est pas non plus que des paroles. C'est vrai que les épouses souvent aimeraient que leur mari dise plus souvent « je t'aime ». Et ça fait du bien, je pense. Mais dire « je t'aime » et puis le reste du temps ne rien montrer de l'amour qu'on a, ça va laisser votre épouse insatisfaite. Quand on dit « je t'aime », il faut le prouver de l'amour de Dieu en se donnant, en aidant, en compatissant, en soutenant, en priant. Ça, c'est l'amour de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est l'image de Dieu, selon la Bible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir Dieu, mais on a son image, et son image, c'est Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il manifeste comme amour quand on regarde les évangiles? Une première chose qui m'a frappé, et qui n'est pas attendue normalement, c'est que le Seigneur Jésus s'est soumis au Père et même à ses parents charnels. Et à un moment, il est dit, quand il était enfant, et il leur était soumis. Dans l'amour, il y a la soumission. Ça, c'est quelque chose que nous avons du mal à comprendre. Dans l'amour de Dieu, il y a la soumission. La soumission aux autorités, la soumission à notre Dieu, la soumission l'un envers l'autre. La Bible dit, soumettez-vous les uns aux autres. Alors, ça ne veut pas dire que je dois arriver devant les autres chrétiens, soumettez-vous à moi, parce que c'est dans la Bible. Non, ce n'est pas dans ce sens-là que ça marche, c'est dans l'autre sens. Je me soumets à vous. Pareil dans le couple. Femmes, soyez soumises à vos maris. Est-ce que ça veut dire que le mari doit poursuivre sa femme en disant « Tu dois te soumettre !» C'est écrit dans la Bible. Tu es une insoumise, une rebelle, une mauvaise épouse. C'est ça ce que la Bible dit? Non. La Bible s'adresse aux femmes. Femmes, soyez soumises. Soumettez-vous par amour, justement. Mais le mari, lui, il doit aimer sa femme. Exactement. Comme Christ a aimé l'Église. Il doit aimer sa femme d'une façon sublime, extraordinaire. Et dans l'amour, il y a la soumission. Le mari aussi doit se soumettre quelque part à sa femme par amour. C'est-à-dire, se soumettre, ça ne veut pas dire être une lavette, se faire marcher dessus. Et se soumettre, ça veut dire se mettre en dessous. Soumettre. Se mettre en dessous. Pour soutenir l'autre, pour le porter, pour l'aider. Ça, c'est la vraie soumission aussi biblique. C'est pas la soumission islamique, par exemple. Quand Jésus a manifesté l'amour, il a manifesté aussi en se sacrifiant pour nous. Il a été jusqu'au bout des souffrances par amour pour nous. C'est la seule chose qui l'a motivé d'aller jusqu'à la croix. Il y a un moment où il a hésité. Vous vous rappelez dans le jardin de Gethsémané, le jardin du pressoir à huile, Jésus a dit « Ah, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi !» Mais il l'a fait quand même, non pas ma volonté mais la tienne. Pourquoi il a été jusqu'au bout? Par amour pour le Père et par amour pour nous. Jésus a manifesté l'amour en guérissant les gens, en leur faisant du bien. Chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un en détresse, il venait à son secours. Il y a des fois, il aurait pu dire « Arrêtez, stop, je suis fatigué ». Quand on a été au Cameroun, une fois, on a amené deux chrétiennes qui étaient des médecins. Et donc, on a été dans la brousse, voir des églises là-bas et encourager des frères et sœurs et annoncer l'évangile. Et donc, au milieu de la brousse totale, hein, en pleine forêt équatoriale, il y avait un petit village de 50 personnes, 50 habitants. Et on a dit, bon, les médecins vont faire des auscultations pendant les 2 jours qui viennent. Donc, 2 jours de suite, on va faire des auscultations. On a amené des médicaments de base et venez nous dire, voilà. Donc, on s'est dit, 50 personnes, ça va aller vite, voilà. Sauf que dans la forêt, il y a le tam-tam. Hein. Et le tam-tam, c'est le téléphone. Hein. Bon, maintenant, ils ont aussi des téléphones portables, hein, même dans la forêt équatoriale. Et voilà qu'il y a une queue incroyable qui vient. Les gens viennent de partout. Il y a 2 médecins françaises. Et elles ont, au lieu, elles pensaient passer 2-3 heures comme ça, elles ont passé 8 heures. Et le lendemain, 8 heures. Elles étaient crevées. Mais heureuse d'avoir pu aider. Dans ce sens-là, en apportant l'évangile hein, de l'autre côté. Et le Seigneur Jésus faisait mieux que ça. Hein. Lui, c'était tout le temps, tout le temps. Il fallait qu'il aille prier pendant la nuit. Au lieu de dormir, il allait prier pour rester en contact avec le Père. Mais toute la journée, depuis le matin, les gens venaient frapper. Hey, est-ce que Jésus est là? Je suis malade ou mon frère est malade, ma sœur est malade? Et le Seigneur s'occupait, il s'est même occupé de cette femme qui a touché hein, son vêtement par derrière, atteinte d'une perte de sang. Pour les Juifs, c'est une femme impure, hein. elle a des pertes de sang, donc elle est impure en permanence, la pauvre dame. Hein. Et Jésus est touché, il se retourne et il y a la foule qui le suit, personne ne comprend qu'est-ce qui se passe. Quelqu'un m'a touché. On est 200 là autour de toi, oui bien sûr quelqu'un t'a touché. Non, quelqu'un m'a touché vraiment d'une façon spéciale avec la foi. Et c'était cette femme. Et Jésus s'est occupé de cette femme. Il a dit, ta foi t'a sauvée. Non seulement elle a été guérie, mais elle a été sauvée éternellement. Le Seigneur Jésus, pourquoi il faisait ça? Pour faire des miracles, pour dire, je suis un grand guérisseur. Jamais. Même souvent, il disait, ne le dis à personne. Ou alors, quand il fallait, il disait, va te montrer au sacrificateur. Parce que c'est, quand on était impur, il fallait aller voir le sacrificateur pour prouver qu'on était devenu pur. Jésus a fait ça par amour. Il s'est occupé de la Samaritaine. Les Samaritains, c'était les plus honnis, des honnis de tout Israël. Et en plus, une femme. Et une femme qui vivait en concubinage, qui avait divorcé plusieurs fois. Jésus s'est occupé, il a parlé avec elle, il lui a parlé du salut, de l'eau vive. Pourquoi il a fait ça? Par amour. Jésus a enseigné par amour. Il a passé beaucoup de temps à enseigner, c'est pour ça qu'on a dans les 4 évangiles beaucoup d'enseignements et c'est merveilleux d'avoir tout ça. Il a enseigné avec patience parce que des fois les gens ne comprenaient rien à rien. Mais ses propres disciples qui devaient avoir un peu plus de compréhension parce qu'ils vivaient avec lui. Mais des fois, il ne comprenait rien. Il dit, ah, on va manquer de pain, allez chercher du pain. Ils se sont dit, ah oui, il y a un problème de pain. Et puis, mais attention au levain des pharisiens. Il dit, oh là là, oui, alors qu'est-ce qui se passe? Il faut du levain dans le pain. Il comprenait. Et Jésus voulait dire, attention à l'enseignement pernicieux des pharisiens, mais ils n'ont pas compris. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il enseignait par amour. Il a aussi repris les disciples, hein, hommes de peu de foi, il leur a dit. Les pharisiens, il a dit, malheur à vous, vous êtes des hypocrites. Mais même ça, c'était par amour. Jésus a toujours répondu aux pharisiens qui lui posaient des questions pièges. Parce qu'il en a eu des questions pièges, franchement, hein, si vous lisez les évangiles. Et est-ce qu'il faut payer les impôts à César? Et est-ce qu'il faut lapider cette femme adultère, etc. Et Jésus leur a toujours répondu, mais à sa façon, évidemment. Et sa façon, c'était la meilleure. Mais il a écouté, il a répondu. Même le jeune homme riche dont on parle, vous savez, celui qui n'a pas voulu suivre le Seigneur, qui dit « Moi, j'ai fait toute la loi depuis ma jeunesse, je suis un bon juif. » Et Jésus lui dit « Ben d'accord, il te manque juste une chose, tu vends tout ce que tu as, tu le donnes aux pauvres et tu me suis. » Et là, l'homme, c'était trop. Pourquoi c'était trop pour lui? Il avait la loi, mais il n'avait pas l'amour. Il n'aimait pas Dieu, il n'était pas prêt à suivre le Messie. Son argent, il aimait plus que la vie éternelle. Il aimait plus son argent que Dieu ou que le Messie. Et Jésus, pourtant, qu'est-ce qui est dit dans l'Évangile? Jésus l'aima. Il y a ce petit verset là avec le jeune homme riche. Franchement, il n'est pas aimable ce gars. C'est un gars qui aime l'argent, qui ne veut pas suivre le Seigneur, on pourrait dire ben, qu'il aille. Hein? Mais Jésus l'aima. Parce que Jésus aime tous les hommes, tous les êtres humains. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera sauvé à la fin, parce qu'on a un choix à faire, une réponse à donner. Mais lui, le Seigneur, il nous aime tous. Il vous aime ici, ce matin. Mais moi, comment puis-je avoir cet amour de Dieu et aimer les autres avec l'amour de Dieu? Parce que notre amour personnel humain, il ne va pas très loin. Même il diminue de jour en jour, avec la violence, avec l'individualisme. Dans les maisons, il y a moins d'amour. Dans les églises, il y a moins d'amour. Alors que c'est là qu'il devrait y avoir l'amour, dans les familles, dans les églises. Mais il faut déjà que Dieu soit dans mon cœur, parce que l'amour de Dieu, il va avec Dieu. Donc si je n'ai pas Dieu dans ma vie, je n'aurai pas l'amour de Dieu. Et on ne l'achète pas, l'amour de Dieu. On le reçoit gratuitement. Lorsqu'on se tourne vers Christ, on dit, c'est par Christ qu'on l'a. Hein. Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Je n'aime personne. Je ne manque d'amour, en fait. Même les gens que j'aime, en réalité, je ne les aime pas vraiment. Et Seigneur, je te demande pardon et je prie que tu rentres dans ma vie, que tu me pardonnes, que tu me purifies, que tu me donnes ton amour. Parce que l'Esprit de Dieu qui nous donne, c'est un esprit d'amour. Et il faut que cet amour coule par le Saint-Esprit. Romains 5:5. L'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5:5. Retenez bien ça. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Plus je suis rempli de l'Esprit de Dieu, plus l'amour de Dieu coule. Plus je suis rempli de moi, moins le Saint-Esprit verse l'amour de Dieu. Et là, il y a une opposition entre mon moi et le Saint-Esprit. Je fais barrage au Saint-Esprit, mon moi, mon ego, ma chair, la Bible appelle la chair dans le Nouveau Testament, hein. Ma vieille nature pécheresse, elle fait barrage. Et il faut qu'elle disparaisse, qu'elle diminue pour que le Saint-Esprit remplisse mon cœur. Et le Saint-Esprit a cette faculté de vous remplir indéfiniment. Et ça ne cesse pas et ça ne fait qu'augmenter. Vous ne pouvez pas dire, oh là là, ça y est, là je suis à 100% de l'amour de Dieu. Là. Non. Même si vous êtes rempli de l'amour de Dieu, là, maintenant, vous êtes probablement à 0,00001%. Parce que l'amour de Dieu, c'est infini, c'est un océan. Hein, j'aime bien ce chant, l'amour de Dieu. Hein, c'est si beau, si grand. Hein, enfin, c'est un océan. C'est-à-dire, vous n'allez jamais, avec votre petite cuillère, arriver à le vider. Et le Seigneur veut nous remplir de son amour. Qu'est-ce qui le bloque? L'orgueil et l'égoïsme principalement. Chaque fois que je me rengorge, que je suis orgueilleux, chaque fois que je veux avoir raison, chaque fois que je juge les autres, chaque fois que je me mets au-dessus des autres, chaque fois que par orgueil je cherche ma gloire, je cherche l'admiration, je cherche les compliments, chaque fois que par orgueil je divise ou je fais du mal, l'amour de Dieu est éteint dans ma vie. L'égoïsme, chaque fois que je suis centré sur moi, mes besoins, moi d'abord, et moi, vous oubliez moi et je m'oublie. Non, l'égoïsme est un frein à l'amour de Dieu. Vous me dites, mais l'orgueil et l'égoïsme, comment voulez-vous vaincre l'orgueil et l'égoïsme? Ça fait partie de notre fonds de commerce humain. Mais c'est ça le salut. C'est quand le salut vient dans notre vie, il nous délivre de l'orgueil et de l'égoïsme. Le Saint-Esprit vient enlever cet orgueil et cet égoïsme. Et qui il met à la place sur le trône de notre vie, de notre âme? Jésus-Christ. Il y avait moi, puis il y avait Dieu. Maintenant, Dieu est entré et moi je descends et Dieu monte. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises, dit la Bible. Renoncez à vous-même, dit la Bible. Dites, oh là là, c'est terrible, vous demandez de renoncer à soi. Ça veut dire, je dois renoncer à tout ce qui est agréable, tout ce qui est bon, je dois plus penser à moi-même, je dois plus manger, alors plus dormir. Non, ça c'est l'ascétisme, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Renoncer à soi, c'est justement renoncer à son égoïsme et à son orgueil. Mais pour le reste, on ne renonce pas. Quand j'ai faim, je mange. Quand j'ai sommeil, je dors, normalement. Parce que ça fait partie de la vie et Dieu nous a fait comme ça, avec des besoins inhérents à l'être humain. Mais il parle des autres choses, il parle de l'orgueil. C'est à ça qu'il faut renoncer. Et puis, pour avoir l'amour de Dieu dans notre vie, il faut être concret. Encore une fois, faire des discours sur l'amour, n'est-ce pas? Là, je suis en train de faire un discours sur l'amour. Et je pourrais me dire, bon, je fais un discours sur l'amour, donc j'aime les autres. Eh bien non. Faire un discours, c'est pas aimer. Aimer, c'est concret. C'est prier pour les autres. C'est aider les autres quand ils sont en difficulté. Encourager quelqu'un qui est découragé. Guérir quelqu'un qui est blessé dans sa vie, dans son âme. Corriger quelqu'un qui s'égare. Instruire quelqu'un qui est ignorant. C'est ça l'amour concret. Et ça demande du temps, ça demande un effort, ça demande de se donner et de ne pas compter, de ne pas dire, écoute, j'ai 10 minutes pour toi et ça va être 10 euros de l'heure. Hein. Donc tu calcules. Non, l'amour se donne. Dieu n'a pas fait payer son salut, c'est gratuit. C'est la grâce. Et si j'ai l'amour de Dieu, si je veux le répandre, ça doit être gratuit. Paul disait, nous nous faisons une gloire de vous apporter l'évangile gratuitement. Comment il faisait ça? Mais quand il n'avait pas d'aide des autres églises, il travaillait, il fabriquait des tentes pour gagner de l'argent, survivre, afin que les païens puissent entendre l'évangile gratuitement. Puis après, quand l'église était formée, là, il y avait des offrandes, et là, l'église suppléait aux besoins des pasteurs. Mais les évangélistes, les missionnaires, ils venaient des fois à leurs frais ou aux frais d'autres églises pour que l'évangile soit gratuit. Et il faut encourager, admirer les missionnaires qui quittent leur famille, leur pays, qui quittent leur vie. Parfois, ils avaient un travail et tout ça, ils avaient une vie comme tout le monde. Mais ils quittent tout ça pour aller dans une langue étrangère, un pays étranger, une culture étrangère avec des gens qui ne vont pas toujours les apprécier. Ils vont des fois finir leur vie là. Mais ils le font pourquoi? Normalement, c'est parce qu'ils aiment. L'appel de Dieu, c'est l'amour. On aime un peuple, même s'il n'est pas aimable. Comment dois-je progresser? Puis-je progresser dans l'amour? Mais il faut que je m'approche de Dieu. Au tout début, j'ai lu dans Éphésiens que vous soyez remplis de l'amour de Dieu, que vous connaissiez la hauteur, la profondeur. C'est une sorte de... Je ne sais pas, on pourrait comparer ça à une grotte, la grotte de l'amour de Dieu. Et partout, il y a des pépites là d'amour de Dieu, mais il faut y aller, il faut rentrer, il faut explorer. D'abord, vous avez l'amour de Dieu dans la Bible. Vous avez plein de témoignages de l'amour de Dieu dans la Bible. Et puis ensuite, vous avez le Saint-Esprit qui est dans votre vie, qui va vous témoigner de l'amour de Dieu. Et puis, il y a le fait que le Seigneur Jésus soit mort pour nous. C'est la preuve du plus grand amour. Mais il y a aussi la fidélité de Dieu tous les jours. Dieu est fidèle. Quand on le prie, il nous écoute. Franchement, il y a des fois, je me dis pourquoi le Seigneur m'écoute. Ma prière n'est pas toujours sincère, ou ma prière n'est pas toujours bien faite, ou je n'ai pas demandé ce qu'il fallait. Probablement, je demande selon ma propre volonté. Mais Dieu m'écoute. et Dieu cherche le meilleur pour moi tout le temps. Il m'aime tout le temps. Oui, mais quand je pêche, Dieu est attristé quand je pêche. Et quand je répète le péché, Dieu est doublement attristé quand je répète le péché. Pourquoi est-ce qu'il est triste ? Parce qu'il m'aime. Quand on aime quelqu'un et que la personne se met dans des situations impossibles, on est triste. Parce qu'on aime. Et nous, on doit avoir cette attitude de Dieu, s'approcher de Dieu, commencer à pratiquer l'amour de Dieu dans les détails, dans les petites choses, d'être comme Jésus, de se soumettre, de se sacrifier, de guérir, d'enseigner, de corriger avec douceur. On doit faire tout ça par amour. Et si je ne suis pas motivé par l'amour, il faut que j'arrête et que je me remette devant Dieu. Si ma motivation, c'est la gloire, l'orgueil, d'avoir raison, ou peu importe la motivation de travers qu'on peut avoir, il faut que j'arrête. Stop ! Est-ce que je suis motivé par l'amour de Dieu ? Quand je prie pour cette personne, quand je vais parler à cette personne, est-ce que c'est l'amour de Dieu qui me motive ? Et Dieu veut nous remplir de son amour. Il y a beaucoup de gens, et je pense qu'on est peut-être même 100% comme ça, qui ont eu des blessures dans leur enfance, un manque d'amour parfois. Et ça fait une sorte de cicatrice et une sorte d'handicap même. Il y a des gens handicapés de l'amour. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été aimés, donc ils n'ont aucune idée comment on fait pour aimer les autres. Dieu peut guérir cela, réparer cela, restaurer cela. Parce que quand il nous aime, il nous aime d'une façon inconditionnelle, d'une façon totale. Dans le prophète Jérémie, Dieu dit « Je t'aime d'un amour éternel et je te conserve ma bonté. » Il dit ça à un peuple rebelle. Sous Jérémie, c'était le jugement sur Israël. Mais il dit « Je t'aime d'un amour éternel. Je te conserve ma bonté. Je continue d'être bon, même si toi tu es mauvais. » Ça, c'est l'amour de Dieu. Et cet amour peut guérir les plus profondes blessures. Et elles peuvent aussi nous donner, à notre tour, d'aimer les autres et de réparer les autres qui manquent d'amour. C'est peut-être ce qui manque le plus sur notre terre, hein, c'est d'être aimé. Quand on est aimé, on dit on peut vivre d'amour et d'eau fraîche. Il y a une part de vérité là-dedans. C'est vrai que quand on vous aime, d'être riche, d'être, au pôle Nord ou au pôle Sud ou à Tahiti, peu importe si on m'aime. Par contre, si je ne suis pas aimé, je peux être dans le plus beau des pays, je vais être malheureux. L'amour est ce qui est le summum de la vie chrétienne. Ce sera la finalité de notre relation avec le Seigneur au ciel, au paradis, dans la Jérusalem céleste. Et à nous de commencer à le pratiquer, à d'abord à le recevoir, à être rempli et à le donner, à le partager, à que nous soyons des fontaines tous, qui coulent, qui débordent de l'amour de Dieu. Amen et amen. Prenons juste un temps de prière et après je demanderai si Gabriel veut conduire un dernier chant. Pendant ce temps de prière, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'est privé de l'amour de Dieu ? Vous êtes séparé de Dieu ? Vous avez désobéi ? Vous êtes rebelle peut-être ? Vous avez été rebelle, mais ce matin, vous voulez être réconcilié avec le Dieu d'amour. Vous voulez qu'il devienne votre Père. Vous voulez arrêter cette spirale du mal dans votre vie. Et le Seigneur vous appelle, il passe dans les rangs ce matin. Le Seigneur Jésus ressuscité en esprit est là parmi nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sauvé mais qui veut l'être ? Qui n'est pas pardonné mais qui veut l'être ? Simplement, avant de prier, est-ce que vous voudriez bien lever la main pour vous signaler et la baisser aussitôt ? Oui ? Je l'ai vu. J'attends une petite seconde. Père, je veux te prier pour cette personne qui a levé la main et afin qu'elle ouvre son cœur à tout ton amour et qu'elle reçoive ton pardon, ta justice, ta paix. Qu'elle se soumette à ta parole, qu'elle laisse le Saint-Esprit guérir sa vie, son cœur, son âme, déverser cet amour de Dieu, qu'elle mette de côté son orgueil pour que tu puisses prendre la première place. Seigneur, viens à l'aide de cette personne. Elle a levé la main vers toi et je sais que tu l'as vue, que tu l'as entendue et que tu vas exaucer parce que tu es un Dieu de grâce, d'amour. Merci Seigneur de ton appel universel. Et je prie pour nous qui connaissons le Seigneur, mais qui manquons d'amour, vraiment Seigneur, que nous fassions des progrès cette année dans l'amour concret. Même si on ne s'en rend pas compte, ce qui compte, c'est que tu sois, que ton amour nous remplisse et que cette Église déborde d'amour. Je prie pour la ville de Paris, Seigneur, et pour la France, et que cet amour de Dieu soit connu et soit répandu. Je prie pour les autres églises, Seigneur, qu'elles soient remplies de ton amour, de ta parole, qu'elles fassent connaître la bonne nouvelle, et que les chrétiens soient tous encouragés, s'encouragent les uns les autres et se soumettent les uns aux autres. Merci encore pour la Bible que tu as préservée jusqu'à maintenant pour nous et qui est notre guide et notre lumière. Et je le prie au nom de Jésus-Christ. Amen.